Vous écoutez Kiosque Magazine.
Je suis le roi de la danse, oh la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, Whoopidou, je voudrais marcher comme vous et parler comme vous, faire comme vous. Avec vous, c'est que je désire le moyen d'être un homme, un point c'est tout. Dis-moi le secret pour être un homme, est-ce vraiment si mystérieux? Pour moi faire éclore la grande fleur rouge, ce serait merveilleux. Oh.
Ah, c'était Ben, l'oncle Saul, avec une chanson « Être un homme comme vous ». Une chanson qui faisait partie du livre de la jungle de Disney, si certains s'en souviennent. Ah, très hop la joie!
Oui, il y avait une petite finale à la Louis Armstrong. Oh, excusez-moi. L'écureuil gris, c'est un voisin curieux et surprenant. Joël Taillon nous en parle dans Nature sauvage d'automne 2014. Ben, tout le monde le connaît, on le côtoie presque tous les jours en saison, puis souvent pour s'émerveiller de son habileté, hein, à se faufiler entre les arbres, à marcher sur les branches ou sur les fils électriques particulièrement. C'est le plus massif des écureuils arboricoles qui est natif de l'Est de l'Amérique du Nord. On le trouve principalement dans les États de la côte Est des États-Unis, ben, chez nous. Bien sûr. L'écureuil gris a également été introduit en Italie, en Afrique du Sud, en Angleterre, en Irlande et en Australie. Mais en Australie, ils s'en sont débarrassés. Et avec succès. Le succès de l'écureuil gris, ça réside principalement dans sa tolérance aux perturbations de son habitat et la présence humaine. Et ça ne le dérange pas tellement. L'animal présente une grande capacité à s'adapter à de nouvelles sources de nourriture. Son régime alimentaire est très diversifié. Ça varie selon les saisons et selon ce qu'il trouve, selon son habitat. Il se nourrit de graines, de fruits, de plusieurs arbres, arbustes, de bourgeons aussi qui sont gorgés de sève, fleurs, champignons et de la sève d'érable qu'il adore. Alors, dès que l'occasion se présente, il va aussi incorporer à son régime des pommes, des baies, des fruits sauvages, mais aussi des insectes, des œufs d'oiseaux et oisillons et des souris. Donc, il n'est pas seulement insectivore, hein? Et il ne mange pas seulement des arachides, surtout. Il consomme de 400 à 900 grammes de nourriture par semaine, ce qui est considérable, parce que c'est une quantité allant du simple au double de son propre poids. Alors...
Dis-moi, Michel, on dit souvent que les écureuils n'ont pas de mémoire et ils enfouissent toutes sortes de graines un peu partout. Puis on dirait que quand ils viennent pour les récupérer au printemps...
Oui, ça, c'est faux. L'écureuil gris, l'écureuil en général, a une très bonne mémoire. Et il sème un peu partout parce qu'il va en avoir besoin pendant l'hiver. Et s'il a l'air de chercher tout le temps, c'est que souvent, il y a d'autres écureuils qui ont senti qu'ils sont passés avant lui et qui ont chippé sa nourriture. Et profitant du feuillage dense, l'écureuil gris va construire et entretenir un nid, véritablement un nid, qui est situé dans la fourche d'un arbre, environ à 10 à 15 mètres du sol, pour se protéger. Ce nid qui est composé de feuilles, de petites branches, ça ressemble à un nid d'oiseau dans le fond, ça s'avère une construction solide, qui est à l'épreuve des intempéries, et une protection indispensable aussi contre les prédateurs. Et l'écureuil gris n'hiberne pas. Hein? Il arrive toutefois de demeurer inactif pendant un à deux jours, ben, lors des périodes de grand froid ou des abondantes chutes de neige. On observe plusieurs phases ou plusieurs couleurs de pelage. C'est drôle de dire ça pour l'écureuil gris, mais vous allez avoir des populations qui vont être constituées d'individus au pelage noir. Et dans le sud du Québec, vous avez même des individus qui vont avoir une fourrure blanche ou même cannelle. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'une même portée peut être constituée de jeunes écureuils qui vont avoir des pelages différents. Le caractère remarquable de la queue de l'écureuil a de multiples fonctions. Elle va agir comme gouvernail lors de sauts en hauteur, comme bâton d'équilibre ou d'équilibriste pour traverser les fils électriques, et étonnamment de couverture isolante en hiver, se protéger, ou de parasol en été pour se protéger des humeurs du soleil. Vous avez certainement remarqué qu'il monte et descend toujours la tête la première. Et effectue des bonds considérables aussi, des bonds de 1 mètre de longueur. Et en cas de danger, il peut courir 25 km/h au sol pour se mettre à l'abri. Au début de l'été, fin de l'automne, l'écureuil s'affaire à disposition et à l'entretien de ses caches de nourriture. C'est une activité cruciale pour sa survie. Et il va avoir des réserves importantes qu'il peut retrouver parfois même sous 30 centimètres de neige. Les interactions sociales entre écureuils sont réglées selon une hiérarchie dominante qui est établie par des démonstrations d'agilité et de vitesse qui prennent souvent la forme de poursuites effrénées. Et des opposants interagissent par l'intermédiaire de diverses vocalisations, des graissements de dents, par exemple, des postures, des coups de queue aussi. Au Québec, la saison de reproduction a lieu entre janvier et février, plutôt. L'écureuil gris peut produire deux portées. Une première, issue de l'accouplement hivernal, qui va naître en avril ou en mai, et il y en a une seconde qui résulte de l'accouplement en été, qui vient au monde au mois d'août. En début de période de reproduction, la femelle en chaleur se perche à la cime des arbres, libère des sécrétions hormonales spécifiques et émet de petits cris aigus. Et les mâles vont se précipiter, vont s'affronter et vont prendre en chasse la femelle. Et alors, on a certainement vu, tout le monde, des folles poursuites qui vont durer même parfois des journées. Et qui va l'emporter? Ben, le mâle le plus habile, qui va repousser tous les autres par ses gambades un peu partout. Celui qui court le mieux, peut-être. Est-ce que pour se sauver ou pour rejoindre la femelle? Alors, c'était... il y aurait encore beaucoup à dire sur l'écureuil. L'écureuil gris, qui peut être noir ou même...
roux.
D'autres, ou même roux, hein? Mais on l'appelle l'écureuil gris. Et c'était par Joël Taillon, dans Nature sauvage, d'automne 2014.
Pas dire ça à personne, mais j'aimerais ça t'écrire des poèmes avec des beaux mots qu'on comprend pas. ni un ni l'autre. J'aimerais ça qu'on se fasse une soirée avec des petites fleurs pis des chandelles, mais je trouve ça kitten pour mourir, pis toi aussi. Au pire, on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. Au pire, on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. J'aimerais ça danser un slow avec toi, mais on est tous les deux trop maladroits. J'aurais peur de te marcher dessus puis de casser un orteil. J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux puis qu'on se dise des belles affaires. Ça sortira peut-être tout à l'envers, ben au moins nous autres on se comprendra. Au pire, on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a de besoin. Au pire, on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a de besoin. De toute façon, il était rendu trop maigre. J'ai le cœur engraissé, mais c'est correct. De toute façon, il était rendu trop maigre.
C'était Lisa Leblanc et son Kraft Dinner.
Alors, Lisa Leblanc qu'on entend un peu partout, hein, de ça.
Oui. Ouais. On commence à la découvrir un petit peu plus à travers d'autres chansons.
Ben oui, elle fait d'autres choses que Ma vie, c'est de la merde.
C'est ça, ben oui. Ben...
Pas fait seulement ça.
Eh bien, Michel, on va parler maintenant d'un autre sujet tiré du Biosphère de septembre-octobre 2014 qui s'intitule Dans la peau d'un beluga. Alors, chaque été, dans l'estuaire du fleuve Churchill, dans la baie du Tson, il y a au-dessus de 3000 belugas qui viennent frayer, donner naissance à leurs petits et entreprendre de les élever. Et au cours des quatre derniers étés, un artiste de Winnipeg du nom de Kaoru Ryan Clatt mène un projet original, explorer le potentiel d'une interaction esthétique, d'un échange interculturel, en quelque sorte, entre les artistes et les belugas de Churchill, à travers des sons, des mouvements, de la musique et de la sculpture.
Ah oui.
Alors, le monsieur en question, M. Clatt, ne croit pas être motivé par des objectifs, comme certains scientifiques, et n'essaie pas de démontrer une hypothèse. Alors, donc, son élément, l'élément le plus intriguant de son projet, en fait, c'est son costume de baleine bionique. Alors, avec ce que je vois sur la page du magazine, on voit vraiment qu'il ressemble à un beluga. Il est tout habillé en blanc, c'est une baleine blanche, hein, le beluga. C'est un costume qui est fabriqué en néoprène blanc pour isoler le plongeur des eaux glacées là, de la baie du Tson. Et ça imite effectivement la forme, la couleur d'un beluga. Et il y a même un système de propulsion qui permet à notre monsieur de nager à la même vitesse que les baleines parce que c'est ce qui les fait réagir, semble-t-il, parce qu'elles viennent l'observer et le font voir à leurs amis, le faire savoir à leurs amis. Elles n'ont pas de iPod ou de cellulaire, mais...
Elles le présentent à leur communauté.
Exactement.
Oui, bien.
Et contrairement à ce que les belugas font avec les bateaux, ils vont nager en dessous de moi, nous dit M. Kratt. Et pour maintenir l'interaction, c'est de soutenir le rythme. C'est vraiment ça. Et il y a une autre composante clé, c'est la musique. Alors que plusieurs artistes, dont des chanteurs, des percussionnistes, joueurs de mandoline et de glockenspiel, qui est une espèce de xylophone en bois, ont apporté leur contribution à cette performance et ils réagissent vraiment à la voix, semble-t-il, les belugas. Elles produisent des vocalisations. C'est pourquoi on les appelle les canaris de la mer.
Ah oui?
Un gros canari, par exemple, là?
Oui, je vois pas la comparaison. Canari de la mer.
À cause de...
Oui, mais ça n'a pas la même couleur, ça n'a pas la même forme. C'est...
Sûrement au niveau du chant, là.
Oui, canari de la mer, étonnant.
Alors, M. Kratt enregistre en vidéo les efforts de son groupe au fil des années récentes avec l'objectif de compléter un film documentaire d'ici un an. Et on peut déjà voir des extraits sur le site web du projet qui s'appelle becomingbeluga.com en un seul mot, donc B-E-C-O-M-I-N-G-B-E-L-U-G-A. Et il espère également organiser une exposition de matériel photographique tiré de son projet là, depuis 4 ans et la faire tourner dans des galeries. Alors voilà, c'était donc Dans la peau d'un beluga tiré de Biosphère, septembre-octobre 2014.
Quelle histoire étonnante.
Quelle histoire, hein?
Tiré de Géo-Savoir, mine d'information. C'est un hors-série, hein. C'est juin-juillet 2014. On ne peut pas mettre de métal au micro-ondes. Est-ce que vous savez pourquoi? Il y a un ingénieur, un fabricant d'électronique dans le Massachusetts. C'est un Américain qui s'appelait Percy le Baron Spencer, probablement le Baron Spencer, qui a déposé en 1945 un brevet qui a véritablement révolutionné nos cuisines. Ben, vous vous en doutez, hein? Son invention, qui était décrite comme une nouvelle méthode de traitement des denrées alimentaires, ça se présentait sous la forme d'un appareil assez gigantesque à l'époque, je vois mal dans nos cuisines maintenant. C'était haut comme un homme, haut comme une personne. Et ça pesait 340 kilos. Bon, pas très pratique dans nos cuisines maintenant. Et c'était capable d'une prouesse assez extraordinaire, parce que jusque-là, c'était inédit. Chauffer des aliments en un rien de temps. Donc, il avait inventé le premier micro-ondes.
Eh, mais ça date de 1949, c'est ça?
1945.
Oui,
les premiers. Ah oui,
c'est quand même.
Ouais, mais c'était, évidemment, c'est les balbutiements à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a des centaines de millions de gens à travers la planète, on le sait, qui utilisent cette innovation et qui ne renonceraient pour rien au monde à ces avantages. Je pense qu'il y en a partout maintenant, dans chaque cuisine. Car aucun four classique, jusqu'à maintenant en tout cas, aucune plaque chauffante ne sera jamais capable, ça, j'hésite à dire ça, ne sera jamais capable, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, mais va être capable d'amener un plat à température aussi vite qu'un four à micro-ondes. Pourtant, pour bien des utilisateurs, le micro-ondes garde sa part de mystère. Parce que pourquoi ne réchauffe-t-il pas tout ce qu'on y introduit? Pourquoi une soupe, un ragoût de viande, des nouilles en sauce frémissent-elles vite? Pas à la même rapidité, cependant, on le sait, alors que le récipient en verre reste froid. Pourquoi fait-il éclater les grains de maïs en popcorn? Et pourquoi est-il hautement déconseillé, oui, de placer dans l'appareil certains objets métalliques? L'explication, ben, la technologie mise au point par le monsieur dont on parlait, Percy Spencer, repose sur une forme particulière de radiation des micro-ondes, et fortement apparentée aux rayons lumineux, sauf qu'elle n'éclaire pas. Ces ondes sont, comme la lumière, des champs d'énergie. Les physiciens parlent d'ondes électromagnétiques. Bon, elles oscillent à très haute fréquence, se propagent aussi rapidement dans l'espace. Les radiations utilisées dans les fours à micro-ondes, écoutez bien ceci, ils pulsent à une vitesse incroyable de 2,5 milliards de fois par seconde. Assez rapide, ça, hein? Alors, si ces rayons entrent en contact avec des substances contenant de l'eau, un phénomène étonnant se produit. L'oscillation, dont on vient de parler, ça excite les molécules d'eau qui se mettent à leur tour à vibrer des milliards de fois. Et c'est la conséquence d'une loi physique selon laquelle les ondes électromagnétiques agissent sur des particules de matière chargées en électricité. Alors, sur ces molécules d'H2O, par exemple, ces particules présentent deux spécificités. D'une part, elles sont extrêmement petites et mobiles. D'autre part, leurs charges électriques sont inégalement réparties. Alors, il y a un pôle positif et un pôle négatif. Alors, ces particularités ont pour conséquence qu'elles se laissent entraîner par le va-et-vient des ondes électromagnétiques, vous vous rappelez, 2,5 milliards de fois à la seconde. Donc, ils se laissent emporter par le va-et-vient. Les molécules d'eau vibrent donc sous l'impulsion du rayonnement micro-ondes. Leurs mouvements produisent de la chaleur, permettent ainsi de réchauffer toutes sortes de plats. Car, ne l'oublions pas, tous les aliments renferment une certaine quantité d'eau. Même les grains de maïs qui paraissent bien secs contiennent une partie infime d'humidité. Alors, exposée au micro-ondes, cette eau atteint rapidement une telle température qu'elle finit par s'évaporer rapidement, brutalement même. Le grain éclate, alors, en une structure à l'aspect mousseux, on sait lequel, et c'est le popcorn. En revanche, le plastique ou le verre des matériaux totalement exempts d'eau, ils sont traversés par les micro-ondes sans que les molécules qui les composent n'entrent en vibration ni ne se réchauffent. Alors, que se passe-t-il pour les objets métalliques? Bien, pour ceux qui soient suffisamment épais, les micro-ondes ricochent, rebondissent quand elles entrent en contact avec eux. Le fer, l'acier, l'aluminium, le cuivre, ils agissent comme des miroirs, si on veut. Ils réfléchissent les rayonnements riches en énergie. Alors, c'est pour ça qu'il est inutile de vouloir faire chauffer dans un four à micro-ondes des aliments contenus dans des récipients en métal. Les ondes sont tout simplement bloquées en chemin et la nourriture reste froide. Alors, si ces objets métalliques sont particulièrement fins ou pointus, cela peut même devenir dangereux. Et dangereux dans le sens aussi que ça va bousiller votre micro-ondes. Hein? Il va sauter votre micro-ondes. Les minuscules particules chargées négativement qui sont situées à la surface du métal absorbent tant d'énergie qu'elles peuvent faire jaillir des étincelles. C'est la plupart du temps ce qui se produit très, très, très rapidement. Si vous avez du métal, au bout de, je dirais peut-être 10 secondes ou 15 secondes, vous allez voir des arcs de feu dans le micro-ondes, ce qui est particulièrement dangereux. Et le métal peut même fondre, hein? D'où la consigne stricte, et c'est indiqué, je crois, dans tous les manuels, pas de couteau, de papier aluminium, de vaisselle avec... Et simplement, la vaisselle avec un petit contour en métal. On ne sait pas toujours et ça ne va pas dans le micro-ondes. Et ça va faire sauter votre micro-ondes et ça ne chauffera rien du tout. Ah, voilà pourquoi on ne peut pas mettre de métal dans le micro-ondes. C'était Géo Savoir, hors série, qui nous en parlait.
Et voilà, il nous reste quelques instants, quelques minutes pour vous parler de petites nouvelles brèves. En fait, tantôt, je vous ai entretenu du « Comment devenir beluga ». On a parlé des belugas de la baie du Tisson. Alors, on va parler des belugas du Saint-Laurent maintenant, où leur déclin alarme les scientifiques. Ça, c'est dans Métro d'hier, lundi 29 septembre 2014. C'est un chercheur qui étudie les belugas dans l'estuaire du Saint-Laurent qui prévient qu'une catastrophe pointe à l'horizon après une autre saison reproductive difficile pour cette espèce menacée. La population de béluga connaît un lent déclin depuis une décennie, indique le biologiste Robert Michaud, directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins à Tadoussac. Son équipe a trouvé les carcasses d'au moins 5 bébés bélugas depuis le début de la saison de mise bas qui prend fin bientôt le 15 octobre. Le nombre de bébés morts sur les berges est inhabituellement élevé depuis 2008, selon M. Michaud, donc un article, court article, de la presse canadienne dans le métro de lundi 19 septembre. 29 septembre, voilà.
Alors, je vous parlais des écureuils tout à l'heure. Ben, je lisais dans la Gazette en particulier une famille qui a eu une désagréable surprise en entrant chez elle. Ils sont entrés chez eux et tout était détruit à l'intérieur de la maison. Ils rentraient de vacances. Et ils ont appelé les policiers comme vandalisme. Ils pensaient que c'était du vandalisme. Et tout était sans dessus-dessous, hein, même détruit. Et en fin de compte, ils se sont aperçus, lorsque les policiers sont arrivés, c'était un écureuil. Un écureuil femelle qui avait mis bas à l'intérieur de la maison et qui voulait trouver de la nourriture pour ses petits. Alors, elle avait entièrement détruit tout ce qu'il y avait dans la maison. Alors, c'est incroyable, hein? Ils sont magnifiques, ces petites bêtes. Mais, peut être envahissantes. Si vous les nourrissez, attention, elles vont revenir très souvent. Je crois que ceci nous amène à la fin de notre émission. Alors, je remercie... Anne Chiasson.
Bien, merci. Merci à toi, Michel.
On vous souhaite la bienvenue. Et je remercie aussi pour la mise en onde des choix musicaux, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien La Liberté. Et pour son sourire aussi, qui nous encourage toujours. Hein, on le remercie beaucoup. Notre site, je crois, est toujours canalm.org. Magnifique. On est en reprise à 13h et 21h. On vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine.